L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
On entend beaucoup parler de changement climatique, mais en fait, pas tant que ça. Et en réalité, on n'y comprend pas grand-chose. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Wagner, qui est un ex-financier, qui est aujourd'hui un créateur de contenu. Il a créé le blog Bon Pote, qui est un blog, comme il le présente lui-même, qui parle d'un truc pas cool, qui est le changement climatique. Et avec Thomas, on parle de nombreux sujets. D'abord, de comprendre c'est quoi précisément le changement climatique, quelles sont toutes les dimensions que ça touche, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour changer, qu'est-ce que ça a comme impact sur la société, l'impact aussi en politique. Bref, on essaye de couvrir la manière dont ce sujet devrait être traité dans la société et quelles solutions on pourrait apporter. Un épisode évidemment passionnant que je vous laisse écouter. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Thomas.
Salut Greg.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Très bien.
T'as fait une longue route pour venir me voir.
Ah oui, j'ai traversé le périph' presque, donc tu te rends compte que c'est une bonne route. Ouais.
Je voudrais parler avec toi, je suis ravi d'avoir cette conversation, ça fait un petit moment qu'on discute ensemble. En particulier, j'aimerais débuter par ce bouquin dont tu parles, auquel tu fais référence de manière assez régulière, autour du fait de parvenir. Sachant que toi, t'avais une carrière plutôt toute faite, on va dire, dans la banque, et que t'as complètement décidé de changer de carrière. Est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui de parvenir ? Qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce que c'est aujourd'hui ?
Ouais, le principe, bon, ça a été mis en lumière par Corinne Morel-Darleux dans un livre qui s'appelle « J'ai toujours du mal à me rappeler du titre » alors qu'il est magnifique ce livre. C'est plutôt « Couler en beauté » que « Flotter sans grâce ». Donc c'est un livre très court, il fait 90 pages environ, mais c'est vraiment de la poésie. Même si c'est sur l'effondrement, c'est de la poésie. Et le principe de refus de parvenir, c'est de pouvoir réussir sans écraser les autres. Donc je fais un parallèle tout de suite avec ma propre petite carrière où j'ai passé plus de 10 ans en finance. Mais aujourd'hui, enfin, je ne vais pas te faire un dessin, les marchés financiers ne sont évidemment pas soutenables. Y a plein de choses qui ne vont pas et ça ne m'allait pas, d'un point de vue en tout cas personnel et éthique. Donc la pression, c'était un peu une épée de Damoclès les dernières années. J'arrivais à rester. J'ai commencé à écrire en parallèle, on va en parler. Mais petit à petit, ça devenait trop. Donc j'ai fini par quitter pour pouvoir un métier qui s'aligne un peu plus sur mes valeurs. Et voilà.
Donc tu as fait ce qu'on appelle, j'ai appris le mot ce week-end. Hein, donc je fais une sorte de passage un burn-out. Donc enfin, le burn-out, c'est quand tes valeurs ne correspondent plus avec le travail que tu fais.
Quand j'apprends ce genre de mots, je le mémorise et pendant 6 mois, je parle que de ça, donc très bien.
Voilà. Et donc aujourd'hui, t'as lancé un blog qui s'appelle Bon Pote, sur lequel tu parles d'écologie, principalement, très majoritairement. Pourquoi ce sujet-là en particulier par rapport à d'autres sujets qui pourraient te sembler aussi importants?
Alors la première des raisons, c'est parce qu'on n'en parle pas assez. J'ai publié ce matin même le résultat d'une étude. 1% des médias, le temps d'antenne, c'est 1% qui est consacré au sujet écologique. Alors que c'est vraiment les enjeux, les questions écologiques sont les enjeux des prochaines décennies. Et on en parle 1%. Donc là, typiquement, je sais que tu n'habites pas en France, mais j'imagine que tu te tiens au courant de ce qui se passe. Les médias aujourd'hui parlent, en gros, des conneries de Zemmour, d'immigration. Là, tu as déjà pris 60%. En plus, après, tu as Jean Michou qui nous parle de son chat. Et voilà. De temps en temps, on parle du changement climatique, etc.
Et est-ce qu'il n'y a pas un problème justement avec le changement climatique, dans le sens où on parle principalement de l'augmentation de la température ou voilà de, et pas vraiment de la biomasse par exemple, de la biodiversité. Je trouve que en fait, enfin j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, c'est à toi de me dire, que le sujet de l'écologie, il est de plus en plus concentré sur l'énergie et sur l'empreinte carbone et pas tant sur le reste. Et moi par exemple, quand j'entends des personnes nous expliquer que on est en train de travailler sur des technologies, par exemple, c'est l'énergie de fusion, si je ne me trompe pas, qui vont permettre de générer de l'énergie sans gaz à effet de serre et que ce sera génial. Je me dis, mais en fait, c'est la pire nouvelle pour l'humanité, parce que si on commence à créer une énergie qui génère aucun gaz à effet de serre, bah, du coup, ça va nous permettre de continuer sur la route sur laquelle on est et donc de continuer à éteindre l'intégralité des autres espèces. Et en fait, comme on fait partie de l'écosystème, ça fonctionne plus.
Je te rejoins entièrement. Quand on en parle majoritairement du carbone, c'est ce qu'on appelle la carbon tunnel vision. Donc en gros, on ne parle que ça et on oublie tous les autres pans, dont la biodiversité évidemment, qui est hyper importante. Il y a eu la cinquième limite planétaire qui a été franchie il y a 2 semaines. Absolument personne n'en a parlé, hein, évidemment. Mais oui, t'as vraiment entièrement raison. Ouais. On n'en parle pas du tout assez. Et...
C'est quoi les arguments, en fait, entre guillemets, que tu utilises pour essayer de convaincre des personnes qui ne sont pas convaincues? Parce que le problème qu'on a avec ces sujets-là, c'est que souvent, on parle à des gens qui sont déjà convaincus. C'est super et on les renforce dans leur vision du monde. Mais par contre, la problématique, c'est toutes les personnes qui ont du mal à accepter la problématique. Et après, on ira sur les gens qui ont compris mais qui ne veulent pas changer. Mais ça, c'est un autre point encore.
Ouais, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a un gros déficit d'information. J'ai parfois très envie de m'arrêter dans la rue, même sur les Champs-Élysées, de me dire « Ok, je prends 100 personnes et je fais des tests moi-même. » Je pense que tout le monde aujourd'hui en France va te dire « Oui, il y a un problème avec l'environnement. » C'est une très grande majorité. En revanche, si tu leur demandes quelques ordres de grandeur « Ok, à quel point c'est grave et à quel point tu dois changer ?» Il y a 90-95% des gens qui ne pourront pas répondre. J'ai fait un test récemment avec mes amis, parce que j'aime bien me faire offrir des restos quand je vais au resto. Donc, je fais des paris avec eux. Et le grand jeu en ce moment, c'est de dire « Ok, on prend 10 personnes dans le resto et on leur demande « Est-ce que vous savez ce qu'est le GIEC ? Est-ce que vous savez ce qu'est une empreinte carbone ? Et ensuite, quelle est l'empreinte carbone moyenne et quel est l'objectif à atteindre ?» Et en gros, le pari, c'est que il y ait 20... C'est vraiment, c'est rien du tout. Qu'il y ait 2 personnes qui répondent sur 10. Au début, c'était la moitié, mais comme ils perdaient à chaque fois, ils en avaient marre. Eh ben, je n'ai pas encore payé un seul resto pour l'instant.
Alors peut-être que tu peux nous répondre à ces 3 questions. C'est quoi le GIEC?
Le GIEC, c'est un organisme international qui fait une synthèse en 3 groupes de travail, qui fait une synthèse sur le climat. La première, c'est sur un pan physique. La deuxième, c'est sur l'adaptation. Donc, comment on va faire pour s'adapter au changement climatique? Et le troisième, c'est l'atténuation. Donc, comment on fait pour baisser les émissions? Donc, eux font une grosse synthèse. Le dernier, typiquement, c'est plus de 4000 pages. Là, c'est sorti en août, que moi, j'essaye de mon côté ensuite de résumer dans mes petits articles entre 5 et 10 minutes de lecture pour que ce soit accessible.
Mais il y a un résumé, si je ne me trompe pas.
Et il y a un résumé, il y a effectivement un résumé, donc c'est là où ça devient drôle, c'est que c'est un résumé pour les décideurs, donc qui est validé par tous les gouvernements. Mais tu doutes bien que dedans, c'est un peu difficile pour eux de dire « bon, c'est de la faute du pétrole, du charbon et du gaz ». Donc en général, ils sont assez bons pour retirer ces mots-là de ces résumés.
Mais néanmoins, ce qui est intéressant avec le GIEC, pour les personnes qui ne le connaissent pas du tout, c'est un groupement qui a été créé par les États, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une entreprise privée, c'est des experts, des scientifiques qui se regroupent de tous les pays et qui se